15 rue Soumande.
Jusqu'à 10h, vous écoutez Que Québec se lève avec Paul-Raphaël Charon, Vez et Alexis Sanson. Paul-Raphaël réveille les gens de Québec. Au FM 93. Que Québec se lève.
La chronique historique de François Terrien. Voici le studieux Sieur de Terrien.
Oh, que oui, le Sieur de Terrien qui s'installe pour sa très attendue chronique. Les gens commençaient à s'empresser. Là, ça se promenait sous Bourcheret hier, ça klaxonnait.
Mais la manie fière, c'était ça?
Sieur de Terrien. J'entendais ça, je te dis. Les gens, ils manifestaient pour la chronique d'aujourd'hui pour démontrer leur amour et leur hâte que ça commence.
Merci, bonne chance.
Alors, toujours dans la lignée que j'adore d'ailleurs bien plus que.
Oui.
Aujourd'hui, Guillaume Couture, en plus, tu me fais un vlog, je sais que tu as fait ça pour moi. Parce
on
que
traverse le fleuve.
Parce que je tripe sur Lévis. Guillaume Couture, bien plus qu'un boulevard.
Oui, en fait, Guillaume Couture, c'est le premier colon français à s'installer sur la rive sud du fleuve dans la région de Québec en 1647. Pensez-y, là, le Québec a été fondé en 1608, puis ça a pris 39 ans avant qu'on installe un Français sur la rive sud. Mais il y avait une bonne raison à ça, c'est que le sud du fleuve est en territoire iroquois. Puis les Iroquois puis les Français, ça faisait pas...
Non,
c'est les ennemis de toujours. Et ils toléraient pas qu'il y ait des Français sur leur territoire. Puis en plus, ce secteur-là, le Pointe-Lévis, Lévis, etc., la rive sud, là, c'était très boisé. Alors, pour faire une embuscade là, pour les Iroquois, c'était parfait. Alors, s'il y avait quelqu'un qui s'installait là, disons qu'il fallait qu'il fasse son testament assez vite parce qu'il faisait pas long feu.
Et donc, c'est mon ancêtre par alliance qui a envoyé là, Guillaume Couture.
C'est ça.
Parce que c'est un ancêtre de ma blonde.
Ah oui?
Ma belle-mère, c'est une couture.
Ben, tous les coutures du Québec ont pour ancêtre Guillaume. C'est le premier couture.
Ah.
Tous les coutures, là, si vous appelez couture, si vous avez des coutures dans votre famille, ben l'ancêtre, c'est Guillaume. C'est le patient zéro.
Que je n'entende pas un faire la joke, j'ai des coutures sur mes culottes, mais n'est pas dans ma famille. Cette blague-là est interdite.
Ouais, hein? Une chance, tu ne l'as pas faite.
Elle est à l'annexe, celle-là, des jokes.
Okay, on ne la fera pas parce qu'elle n'est pas bonne de toute façon. Mm.
Alors, pourquoi Guillaume Couture est le premier à s'établir sur la rive sud? Parce qu'il a été le premier Français à établir de bonnes relations avec les Iroquois. Alors, voici l'histoire peu commune d'un pionnier de la Nouvelle-France. Monsieur Couture est né en France, à Rouen, en 1618. Il meurt 83 ans plus tard, en 1701, dans son fief de Lévis. Il arrive en Nouvelle-France en 1638 en tant que donné des Jésuites. Un donné, c'était un laïc au service des missionnaires jésuites dans leur effort d'évangélisation des Hurons. C'est parce que les Jésuites manquaient de prêtres pour mener à bien leur mission. Puis il y a plusieurs laïcs qui se sont joints à eux comme donné ou frère coadjuteur. Et Guillaume Couture était l'un d'eux. Il développera une relation particulière avec les Amérindiens, les Iroquois en particulier. Pourtant, sa première rencontre avec ce peuple fut tout sauf courtoise.
C'est rare que c'était courtois la première rencontre avec les Iroquois, moi dire.
En 1642, au début d'un périple vers la Huronie, l'expédition de Couture tombe dans une embuscade des Iroquois dans les îles de Sorel. Alors, toute la gang est fait prisonnier, puis sont amenés au cœur du pays des Iroquois, qui était grosso modo au nord-ouest d'Albanie, là, aux États-Unis.
Mm-hmm. Dans l'État de New York.
Dans l'État de New York, là, dans le haut de l'État de New York. Et puis, il sera martyrisé en compagnie du père jésuite Isaac Jogues et du donné René Goupil. D'ailleurs, Goupil va être assassiné, puis il devient le premier des 8 martyrs canadiens. Vous avez entendu,
oui.
Les saints martyrs canadiens?
Oui.
Ben, c'est dans cette expédition-là, René Goupil, c'est le premier des 8 à être zigouillé, si vous me permettez l'expression.
Ça faisait la manchette hier, Saint-Martyr canadien, mais ça a l'air que leur mère est pas tout à fait douette, il est pas tout à fait éthique. Tu sais, il y en avait un article sur les relents de la commission Charbonneau, puis ouais, ça a l'air qu'il y a bien des maires, bien des municipalités où ça, ils n'ont pas encore compris le message. Là.
Dont celle des Saint-Martyrs canadiens.
Saint-Martyrs canadiens, malheureusement.
Bon. Alors, lui, Couture, a résisté à la douleur. Les Iroquois le libèrent. Mais malgré tout ça, il ne leur en voudra pas trop parce qu'il va demeurer en contact avec ceux-ci. Et c'est lui, Guillaume Couture, qui est l'artisan du premier traité de paix entre les Iroquois et les Français en 1645. Cette paix-là dure pas longtemps, seulement un an, mais en guise de récompense, Guillaume Couture reçoit la seigneurie de Lévis en 1647. Donc, il devient à ce moment-là le premier occupant des lieux. Puis comme il y a des bonnes relations avec les Iroquois, même si la paix dure pas longtemps, il est toléré, lui, sur ce territoire-là. Sauf que Guillaume Couture, c'est un coureur des bois dans l'âme. Il va poursuivre ses explorations dans les années 1660, cette fois vers le nord. Il sera entre autres le premier Européen à atteindre le lac Mistassini et la rivière Rupert. Lac Mistassini, là, t'as été au nord du lac Saint-Jean.
C'est pas en fait, à porte à côté.
Non, non, t'es au nord de Chibougamau. Là. T'es pas très loin de Chibougamau, un peu au nord. Ouais. Puis il a continué jusqu'à la rivière Rupert qui se jette dans la baie de James, comme dit le météorologue de TVA, dont je me souviens plus le nom.
Le prof Lebrun.
Et voilà. Puis, il cherchait la mer du Nord, parce que les Amérindiens parlaient aux Français de la mer du Nord. Alors, eux, ils voulaient découvrir cette mer-là. C'était la baie du Tson. Mais oui. Ils sont pas rendus jusque-là. Les Indiens, là, les Amérindiens qui guidaient le groupe à Rivière-Rupert, ils ont dit « On arrête ici, c'est terminé. » Alors, le groupe est redescendu. Quand même, Guillaume Couture a établi des relations avec les nations amérindiennes du Nord. Puis, il est surpris de voir que ce sont des nations beaucoup plus pacifiques que celles du Sud, là, comme les Hurons et les Iroquois. Là. Il n'y a pas des guerres épouvantables comme Iroquois et Hurons se livrent. Et les exploits de Guillaume Couture ne s'arrêteront pas là. En 1690, les Anglais arrivent devant Québec avec leur tête l'amiral Phipps et ils s'attaquent, lui Phipps, à la pointe de Lévis. Couture, à la tête de ses miliciens, repoussera l'assaut. En 1690, il a 72 ans.
Hein?
Puis il joue du fusil contre les Anglais.
Déjà, à cette époque-là, 72 ans, c'est incroyable.
C'est un âge canonique, là.
Ça n'a pas de sens. Puis il est encore assez en forme pour tirer du gun. Puis...
Alors, ça vous donne une idée du bonhomme.
Oui.
Finalement, il va décéder une dizaine d'années plus tard.
Une dizaine? Ça veut dire il s'est rendu à 80?
83 ans. Il est mort à 83 ans.
Tabarouette, il était tough en maudit.
Ah oui. Ben, il fallait, là, parce que s'il y a eu la vie sauve face aux Amérindiens, là, aux Iroquois, là, lors de sa capture, ça veut dire... c'est ça. Il les a impressionnés suffisamment pour que les Iroquois lui laissent la vie sauve. Donc, Guillaume Couture s'installe dans la seigneurie de Lauzon en 1647. Pourquoi la seigneurie de Lauzon? C'est qu'elle doit ce nom à Jean de Lauzon, le premier à qui la seigneurie a été cédée en 1636. Sauf que Jean de Lauzon a jamais mis les pieds dans cette dite seigneurie. Parce que c'était trop dangereux. Fait qu'il est jamais allé. Le fief de Couture est situé dans le secteur de Pointe-Lévis. Là où est situé aujourd'hui l'église Saint-Joseph de la Pointe-Lévis.
Oui.
Le parc et le monument en l'honneur de Guillaume Couture sont dans ce secteur-là. La Pointe-Lévis, là, vous savez, c'est où? C'est là où est le chantier Lévis. C'est pas
c'est
compliqué,
Lauzon.
Là. C'est ça. C'est à cet endroit-là que M. Couture s'est installé. Puis il va avoir bientôt un voisin qui s'appelle François Bissot. Et François Bissot, là, c'est véritablement lui qui sera le premier à développer le secteur. Il a fait construire le premier moulin pour moudre le grain. Alors, il y avait un ruisseau qui coulait dans ce coin-là, puis qui séparait les deux propriétés, Couture d'un bord, puis Bissot de l'autre. Alors, lui, Bissot fait construire un moulin à moudre là. Alors, à ce moment-là, de plus en plus de colons s'installent dans le secteur. Puis, il ne s'arrêtera pas là, François Bissot. En 1668, il fait construire une tannerie sur le même ruisseau. C'est la toute première en Nouvelle-France. La première tannerie qui voit le jour ici, c'est François Bissot sur la rive sud, là, sur le petit ruisseau de la Pointe-Lévis qu'elle voit le jour. Elle sera la seule à fournir du cuir aux cordonniers de la région pendant plusieurs années. Alors, la première tannerie, puis il y en a eu beaucoup à Québec à un moment donné, là, mais la première des toutes premières, c'est François Bissot qui l'installe à la Pointe de Lévis.
J'essaie de trouver le ruisseau. Il est peut-être qu'il existe.
Il n'existe plus.
Ouais,
j'ai
ça,
lu que
dans ce secteur-là,
ils l'ont comblé, puis ça fait pas si longtemps que ça. Si j'ai bien lu, là, c'est au tournant des années 2000 qu'ils l'ont comblé. C'est un petit ruisseau qui partait de ce que j'ai vu. Il y a une résidence, la résidence Monseigneur Bourget, pour ceux qui connaissent le coin. Bon, ben, il commençait dans ce coin-là, puis il coulait jusque dans le fleuve.
Ah, ben, mais la résidence Monseigneur Bourget, c'est dans le bas de la côte?
Moi, ce secteur-là, je le connais pas beaucoup. Là.
J'ai acheté une maison proche de là.
Bon, ben, vois-tu? Alors, dans ce coin-là, le ruisseau prenait naissance puis s'en allait jusqu'au fleuve. Et c'est là qu'on a vu le premier moulin à moudre du secteur et surtout la première tannerie en Nouvelle-France. Elle s'est installée là. Alors là, on est rendu 100 ans plus tard, le siège de Québec et la conquête. Les Britanniques s'attaquent à nouveau au Québec en 1759 et la Pointe-Lévis est un des premiers endroits attaquée au début de l'été. Les Anglais veulent s'installer là. Puis malgré une résistance acharnée, les Britanniques vont s'installer sur la rive sud de Québec et bombarderont la ville de cet endroit. Parce que la ville de Québec a été assiégée pendant tout l'été. Là, les Britanniques avaient installé des canons le long de la falaise puis ils tiraient des boulets très régulièrement sur Québec. Puis signe que le secteur s'était solidement développé en 100 ans. Les troupes anglaises, quand on lit l'histoire, là, les troupes anglaises ont brûlé plus de 300 maisons dans le secteur de Pointe-Lévis en 1759. Ça veut dire qu'en 100 ans, il s'est installé quand même pas mal de monde dans ce coin-là. La seigneurie de Lévis va survivre plus de 75 ans à la défaite française. Elle s'éteint en 1836 parce que le seigneur qui était là à ce moment-là fait faillite. Alors, la seigneurie est démantelée en 1836. Puis le développement industriel de la rive sud de Québec, c'est quand même lent. Il démarre véritablement lorsque Davy installe son chantier naval en 1828. Oui. Rappelez-vous, je vous en avais parlé la saison dernière. Davy était le premier à installer un chantier naval sur la rive sud. Lui, il avait vu un terrain qui était favorable à ce qu'on appelait le halage des navires, c'est-à-dire qu'on les prend de l'eau et on les met sur la terre ferme pour les réparer puis les remettre à l'eau par la suite. Il y avait plein de chantiers navals du côté nord, sur le fleuve et dans la rivière Saint-Charles. Mais lui, il a dit, oh, ce spot-là, il est pas pire. Alors, il est allé là. Alors, il était le seul. Puis, ce qui est drôle, c'est que c'est le seul qui a survécu.
C'est ça, l'histoire lui a donné raison. Oui. Il est encore là.
Tout à fait. À cette époque, il y a de nouveaux villages qui voient le jour. Mais ça, le développement de ce secteur-là se fait de façon très disparate. Saint-Jean-Chrysostome, 1828, voit le jour. Saint-Romuald-des-Chemins, en 1853. Alors, vous voyez un peu, là, c'est pas un développement linéaire, comme Québec, dans le fond. Québec, ben, ça a été secteur de Place Royale, puis ça s'est étendu de façon assez
uniforme
à gauche et à droite.
C'est drôle, parce que t'aurais cru que Saint-Romuald aurait dû se développer avant, c'est sur le bord du fleuve.
Exactement. Puis Saint-Jean-Chrysostome...
À l'époque, il fallait qu'il traverse la Vin.
Oui, c'est ça, oui.
Ben, peut-être que c'est pour ça, Saint-Jean-Chrysostome, on est plus proche d'Avin, on va s'installer là. Pour moi, ils vont mettre l'autoroute là. On va faire notre village dans ce coin-là.
Remarque, on fait des jokes, mais tu parles de 1828 pour Saint-Jean-Chrysostome. On est encore loin de la construction du pont de Québec, là.
Oui.
Le premier lien, c'est-à-dire à cet endroit-là, donc entre le pont Laporte, le pont de Québec, c'est quoi, c'est début 1900 à peu près?
C'est 1917. Qu'il a été inauguré, 16 ou 17, qui a été inauguré le pont de Québec.
Ça fait que disons que ça a pris, je vais pas regarder, mais disons que ça a pris une dizaine d'années à construire.
Ben, plus que ça, parce qu'il avait fait une première version qui s'est effondrée en 1907. Alors, il a fallu qu'il reconstruise. Alors, à partir du début des années 1900, là, on avait en tête de construire le pont. Souvenez-vous, je vous ai parlé la semaine dernière de Frank Carrel, qui était propriétaire là, d'un journal anglophone, le Chronicle, si je ne m'abuse, le Daily Chronicle. Oui. Puis c'est lui, premier, qui avait dit, « Hey, si on veut que Québec se développe économiquement, on devrait peut-être faire un pont parce que la voie ferrée passe de l'autre côté. » Là. Oui. Alors, ça marche pas. Puis d'ailleurs, la voie ferrée a eu son impact sur le développement de Lévis. 1854, que la voie ferrée fait son entrée à Lévis. Là, dans le fond, Lévis est incorporé au Grand Tronc, qui est la voie ferrée qui relie les provinces maritimes, qui ne sont pas des provinces encore, à Montréal et au-delà. Et la gare à Lévis est à Lens-Tibbitts, qui est un petit peu à l'ouest de la traverse Québec-Lévis.
Oui, où est-ce que près du Quai Paquette, là, c'est plus à l'ouest, Lens-Tibbitts.
Oui, il y a un petit
parc Saint-Laurent.
C'est ça, il y a un petit parc là. Ben, c'était là que la gare était. Et ce qui est drôle, c'est qu'en 1854, Lévis, comme tel, n'existe pas. C'est en 1861 que Lévis va être fondé. Et c'est à cause de la voie ferrée, là, carrément, là, parce que le développement était encore très disparate. Mais là, il y a une voie ferrée qui passe là. Alors, évidemment, les gens ont tendance à venir s'installer là. Ah oui. Et on fonde la ville de Lévis en 1861. D'ailleurs, parenthèse, la voie ferrée là, qui était là, qui est maintenant la piste cyclable, il y a eu des trains qui ont circulé là jusqu'à la fin des années 90.
Oui, ben oui, quand j'étais petit, on les entendait.
C'est ça, il y avait encore des trains là, puis à la fin des années 90, ça s'est terminé, puis on a fait la piste cyclable qui est absolument magnifique. Et pourquoi a-t-on appelé Lévis? Ben, c'est qu'elle a pris ce nom pour rendre hommage au commandant de la dernière victoire française en Amérique, François Gaston, chevalier, seigneur et duc de Lévis, vainqueur des Anglais à Sainte-Foy en 1760, donc à peu près 100 ans avant la fondation de la ville de Lévis. Pointe-Lévis, c'était un autre Lévis. Ça n'avait aucun rapport, là, dans le fond. Là. Puis quand on a fondé Lévis en 1861, ben, on s'est dit, ben, Lévis, ce serait un nom. Il y a Pointe-Lévis, Lévis, puis il y a quelqu'un qui a dit, ben, Lévis, c'est lui qui a gagné la dernière bataille pour les Français, les Anglais, c'est ça, en Amérique du Nord.
Sauf que ça s'écrivait L-E-V-Y.
Oui, c'est ça, exactement.
Ils n'ont pas V-I-S.
C'est ça. Alors, ils ont changé l'orthographe. du don. Alors voilà, c'est l'histoire de Guillaume Couture, le premier Lévisien, si vous voulez, et le développement de la ville de Lévis, qui est fort différente de ce qui s'est passé du côté de la Rive-Nord.
Je me permets de lire un texto qui est rentré pendant ta chronique, François, parce que ça résume ma pensée parfaitement. La chronique du Sieur de Terrien est très certainement une des plus intéressantes du FM 93. Je ne sais pas si ces chroniques sont sur Internet. La réponse est oui. Mais ça devrait être écouté par tous les citoyens, jeunes et moins jeunes. Vous allez sur lefm93.com. J'imagine que si vous tapez François Terrien...
Non, pas François Terrien. Que Québec se lève.
Ah, OK. Bon, parfait.
Mais vous avez la face de François, mais ça va être sur la page.
Donc, vous allez cliquer sur l'onglet « Émission » à votre gauche.
Ouais.
Là, il faut sélectionner samedi ou dimanche, évidemment. Si vous regardez, mettons, mercredi, là, vous sélectionnez dans le bandeau en haut, samedi ou dimanche, que Québec se lève. Ben, dimanche, en fait, parce que t'es pas là samedi. Et puis, vous sélectionnez la chronique de François et vous allez pouvoir écouter ça à votre guise. Il y en a plein, il y en a tous les dimanches depuis.
On a commencé ça en janvier.
Ça va faire un an.
La première, je pense, c'est autour du 15-16 janvier, dans ce coin-là.
C'est fantastique, François. C'est très, très intéressant. Peut-être que la semaine prochaine, tu nous parleras de qui était Augustin et que c'était ça des morts, je sais pas.
Je sais pas encore, mais comme je vous le dis à chaque semaine, je suis ouvert aux suggestions.
Oui!
Alors, si vous en avez, gênez-vous pas.
25-226.
Vous envoyez vos suggestions par 25-226. Maintenant qu'on est dans le 25-226, je vous rappelle qu'il vous reste à peu près... Je dirais 40 minutes, une demi-heure. Mettez une demi-heure pour pas vous tromper, pour participer à notre dernière édition du grand concours que Québec se lève vous prépare pour l'hiver. Fantastique promotion.
Oui.
Fantastique promotion. J'en profite pour saluer l'équipe des ventes du 93, l'équipe des promos. Mmh. Merci d'avoir mis du cœur là-dedans. De saluer les gens de Dernay Pneus Mécaniques, les gens de Poil et Foyer Portneuf pour les beaux cadeaux qu'on a pu vous offrir en fin de semaine dernière. Et là, en fin de semaine, le plus gros cadeau des trois, gracieuseté de PMM Wendake. Salut à William. Qui vous offre une souffleuse Arians Classic 24+, d'une valeur de 1 365 $. Vous textez hiver au 25226, H-I-V-E-R. Juste ça, rien d'autre. Pas hiver merci, pas hiver avec un S, avec un T ou avec votre nom, avec votre numéro de téléphone.
Ou un plein d'exclamation.
Juste H-I-V-E-R. Vous textez hiver au 25226. Vous êtes dans le grand baril. On fait le tirage dans à peu près une demi-heure et on vous annonce le gagnant à la toute fin de l'émission. François Terrien? À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Hey, préparez-vous pour l'examen.
Jusqu'à 10h.
Ah oui.
Vous écoutez Que Québec se lève.
Que Québec se lève.
Avec Paul-Raphaël Charon, Vez et Alexis Sanson. Que Québec se lève.
Au FM 93.
93.
C'est ça, l'examen de mi-session?
Oui. Mm-hmm. Le dimanche avant Noël, là, on fait l'examen de mi-session.
Dimanche avant Noël.
C'est autour du 19-20? 20? Je pense 20. Que c'est le 20.
La dernière fin de semaine où on est là. OK,
ouf.
Parfait.
Ah, ça se pourrait que
je commence mal, déjà à stresser.
Je vous le dis d'avance.
J'espère
là.
Qu'il va y avoir des choix multiples.
Sûrement.
Ah. Hey, mais sais-tu qu'est-ce que tu pourrais faire, François? Ton examen, tu pourrais en faire une version qu'on pourrait mettre sur Internet?
Oh, cool,
les auditeurs
oui.
pourraient la remplir. Les auditeurs autres, réguliers, hein. Ceux qui trippent sur ta chronique, pourraient la remplir. Je sais que j'avais un chum qui est proche. Tu en avais parlé. On avait parlé,
oui.
Je pense, en onde. Mon chum Mathieu, qui est Monsieur Mathieu, j'imagine que c'est.
Mais je pourrais l'intégrer.
Prof, il avait fait un examen sur une des chroniques de François, sur la chronique sur la rivière Saint-Charles. Oui. C'était écouter la chronique et répondre aux questions. Là. On pourrait faire une affaire de même. Puis s'il y a des profs ou du monde pour le fun, des tripeux d'histoire ou peu importe, qui veulent faire le quiz, ils pourront.
Excellente idée. Je me mets là-dessus.
OK. Parfait.
Bon, oui, on pourra l'intégrer au podcast de François quand vous allez cliquer pour l'écouter.
Le document?
Avec l'audio, vous pourrez retrouver le document.
Oh, cool.
Je pourrais l'intégrer comme ça.
C'est pas extraordinaire, ça. 9h02 minutes. Voici vos nouvelles.
34 constats d'infraction ont été remis hier par la police de Québec à des opposants au masque lors d'une interminable manifestation devant l'Assemblée nationale. Des gens qui ne portaient pas de masque et respectaient pas les mesures de distanciation. Le convoi de l'Union pour la liberté est arrivé vers 15h sur la colline parlementaire pour manifester jusqu'à 20h. C'est à ce moment-là que le SPVQ, là, un petit peu avant 20h, a distribué des constats, mais aucune arrestation n'a été effectuée. Les producteurs de lait vont être compensés plus rapidement prévu pour des pertes dues au traité de libre-échange. Les agriculteurs vont recevoir les sommes sur 3 ans plutôt que sur 7 ans pour couvrir l'impact des accords qui ont été signés avec l'Europe et la zone transpacifique. C'est 500 millions de dollars par année ou presque là, qui vont être partagés jusqu'en 2023. Les producteurs de volailles et d'œufs de leur côté vont recevoir 700 millions pour les 10 prochaines années en guise d'indemnisation. Et les crimes haineux sont en hausse à Québec. En 2019, il y a eu 70 crimes haineux signalés au SPVQ. 24 de plus qu'en 2018 et presque autant qu'en 2017, où un sommet avait été atteint avec 76 selon des chiffres compilés par le Journal de Québec.
Au hockey, dans la NCAA, hier, l'espoir du Canadien Cole Caulfield a été limité à une passe, 6 lancés et un différentiel de moins 3 dans la défaite de son équipe, les Badgers de l'Université du Wisconsin contre les Sun Devils Arizona State, 8-5. Les deux équipes vont s'affronter à nouveau cet après-midi, 17h, CRDS2 qui va présenter ça, si vous êtes curieux. Dans la NFL, évidemment, il y a des matchs aujourd'hui, c'est la semaine 11, mais il y a plein de petites actualités qui touchent la NFL. Entre autres, aujourd'hui, les Broncos de Denver reçoivent les Saints de Nouvelle-Orléans, mais c'est un receveur de passe de l'équipe de réserve qui va être le corps arrière partant pour les Broncos de Denver, parce que tous leurs corps arrière sont sur la liste COVID, parce qu'il y en a un qui a été testé positif à la COVID. Et comme il a été en contact avec les autres, dont Drew Lock, il n'est pas question qu'il participe au match aujourd'hui. Il y en a sur les réseaux sociaux qui se sont demandé est-ce que Peyton Manning pourrait être disponible.
Ah! Pourquoi pas?
Ah, mais il a pris sa retraite.
Ah oui, ça fait 3-4 ans.
Ah, déjà, à ce point-là.
Ah oui. Moi, je voterais plus.
Je me souvenais qu'il était rendu aux Broncos, là, mais on est au niveau du, comme on dit tantôt, du chauffeur de Zamboni, des
Rival League. Oui, exact.
Et Colin Kaepernick pourrait revenir.
Ah, bonne idée.
T'es encore là.
Mais Colin Kaepernick, en tout cas, on ne parlera pas pendant 2 heures, là, mais ça me fait halluciner, moi, ça, Colin Kaepernick. C'est un super joueur de football.
Il est
là.
Encore bon. Là.
Bon. Mais il est sûrement meilleur que le receveur de passe. Mais
c'est
quoi
ça.
Que le receveur de passe qui va être carrière, il a été carrière au niveau universitaire pendant 3 ans, sauf que ce qu'il connaît le livre de jeu assez pour être carrière dans un match, ça c'est une autre affaire. Mais Colin Kaepernick n'aurait pas pu être appelé hier pour dire « Hey, tu vas être carrière demain, ça marche
non,
pas. »
Non, je le sais, mais ce que je veux dire, c'est juste que en général, l'affaire de Colin Kaepernick, là, c'est comme une espèce de boycott puis de fait que les équipes sont frileuses, de peur d'avoir à gérer des explications à donner au monde pour dire c'est un joueur de football, on a besoin d'un joueur de football. Oui. Mais là, d'un coup, les gens, là, la polémique repartirait.
Peu importe s'il est engagé, s'il est engagé, peu importe par quelle équipe et pas de comment on le présente, ça va faire des remous qu'il va falloir gérer.
Des armous. Tu sais qu'en ce moment, là, dans un game de soccer de la MLS, là, ils mettent encore un genou à terre au début de chaque game pendant une couple de secondes pour en hommage à George Floyd. Mm-hmm. Ils font encore ça. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il a fait Colin Kaepernick? Il a mis son genou à terre pendant l'hymne national. Ils font la même affaire.
Tout le monde le fait, c'est
Tout le monde le fait. Puis il n'y a aucun problème parce que, c'est comme ça. Puis c'est en hommage au bonhomme puis à cette histoire-là. Lui, il n'est pas capable d'avoir de job. En tout cas, c'était mon éditorial football.
Voilà
ce que
j'en
connais.
Les 49ers de San Francisco cherchent un stade. Les Ravens de Baltimore, 6 nouveaux cas de COVID. En fait, 6 nouveaux joueurs sur la liste COVID. Ça ne veut pas dire qu'ils sont testés positifs, mais ils ont été à tout le moins en contact avec des gens positifs. Donc, ça fait 18 joueurs des Ravens qui sont sur la liste COVID. Et on ne sait même pas s'ils vont pouvoir jouer mardi contre Pittsburgh parce que ce match-là devait être présenté jeudi. Aujourd'hui, finalement repoussé encore à mardi, puis là, peut-être repoussé encore. Et en Formule 1, c'est le départ dans quelques minutes, dans 4 minutes du Grand Prix de Bahreïn.
J'ai assez hâte,
je vais changer de poste.
Mes nouvelles.
Lance Stroll va partir.
M'enlève mes nouvelles pour mettre la F1.
Ouais, ça fait déjà depuis 7 heures. Là. Ah ouais. C'est toujours les mêmes qui reviennent en boucle.
C'est un vieux Il m'enlève mes nouvelles. Oui, mais t'es ça depuis une couple d'heures.
Lance Stroll va partir en 13e position. Puis d'ailleurs, il y a un auditeur qui nous a demandé, qui a écrit tantôt sur 25226, puis il dit, moi, je vous écoute en même temps que le Grand Prix.
Oui.
Il dit, il serait intéressant que Vez fasse la description du départ de la course. Oui, ce serait intéressant, mais j'ai pas le droit. Parce qu'on n'a pas les droits de radiodiffusion en direct des courses.
C'est ça.
Puis c'est juste...
Je peux
raconter dans mes manchettes ce qui s'est passé, mais autrement, je peux pas faire la description comme telle. Je m'étais déjà fait avoir à un moment donné, quand j'étais dans une autre station, j'avais été au match d'ouverture de la saison de l'Expo au Stade Olympique, sur la galerie de presse, avec ce qu'on appelle un kit remote pour être en onde pour faire mes bulletins de sport. Dans l'émission du retour, le match était en après-midi. Puis l'animateur, il me dit « Hey, décris-moi un peu l'action. » Puis à un moment donné, je pars, puis je parle en onde. Puis là, je commence. Puis là, la balle est frappée au champ centre. Ça a pris à peu près 12 secondes. Il y a quelqu'un qui me tapait sur l'épaule. C'était la responsable des coms des expos qui m'a donné un char de bêtises.
Oups.
Pour me rappeler que j'avais pas le droit. Mais je savais pas, moi.
Ah, ouais!
Ça fait que j'avais même plus le droit de faire mes manchettes en onde de là. Quand tu n'as pas les droits, tu peux pas être en onde en direct. C'est
sur
juste
place.
La radio qui a les droits. C'était CKC.
Ah,
ça
ben, maudite affaire.
Eh ben oui.
On l'a déjà fait avec le tennis. Personne ne s'est chicané. Tu sais, on a dit, c'est quel tournoi? C'était-tu Roland-Garros ou un autre tournoi?
Bon, on l'a fait faire longtemps.
Là. Non, on l'a fait à peu près 10 secondes parce qu'on trouve ça bien drôle de décrire du tennis à la radio, ouais. Mais...
Mais non, j'aime mieux, genre, pas prendre de chance.
OK. Météo?
Oui, c'est ça.
Météo.
C'est des nuages qui sont en train de couvrir tranquillement, pas vite, le ciel de Québec. Et ça va rester nuageux pour le reste de la journée. Plus 3 comme maximum. Demain, des nuages seront là encore. La pluie va arriver en fin d'après-midi. De la pluie parfois forte avec beaucoup de vent. Maximum de plus 3 demain. Mardi, la pluie reste encore. Puis c'est plus 11 comme maximum. Actuellement, c'est plus 1 à Québec.
Notre ami Nico... Nico, j'allais dire. Nico du retour. On n'est pas dit plus Nico du retour.
Je suis de retour au 93.
Nico, ouais. Wow, oui,
t'as mis Nico
ça,
de retour.
Nico du midi.
Oui, voilà. Hey, si je peux sauver votre couple.
Vas-y.
Les quatre petits carrés à côté du gros, là, c'est d'autres téléviseurs.
Ah ouais, c'est des TV, ça.
Ouais, ouais, mais on en a 5 dans le studio.
Si jamais t'es capable de les faire fonctionner, Nico, ce serait vraiment pas pire.
Ben, ils roulent la semaine, en tout cas.
Ouais, mais la fin de semaine, ils roulent pas. C'est ça, l'affaire.
Ils roulent trop la semaine, puis ils surchauffent. Puis,
ah ouais. Non, vous n'avez pas atteint le statut d'animateur qui mérite 5 télés, c'est
une.
Ça?
Non, c'est géré ça, par les techniciens, puis ils sont pas là la fin de semaine.
J'ai donc la peine pour barré,
parce que quand il y a des mises à jour qui se font sur leurs terminaux, ça éteint les télés.
Okay.
C'est ça qui se passe.
Ben, tant pis pour votre couple.
T'as-tu vraiment une vraie explication, Vez?
Oui.